Bonjour, passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïka, avec aujourd'hui un invité, Georges Bischoff, pour le livre qu'il publie aux éditions La Nuée Bleue, Dans le ventre de l'Alsace, l'âge d'or de la gastronomie alsacienne. Cela nous replonge, Georges, à la Renaissance, c'est-à-dire entre la fin du XVe et le début du XVIIe siècle.
Oui, cette période passe pour être un âge d'or, pour être l'apogée de l'Alsace, et elle est fréquemment revendiquée par la gastronomie actuelle, qui s'est mise en scène dans un décor illustré par exemple par la maison Kamerzell, qui est un décor de maison fastueuse de la fin de la Renaissance, décoré de fresques, avec une cuisine opulente, avec l'exaltation des saveurs, dans le cadre d'une espèce de goût un peu rabelaisien.
Construite à la demande d'un maître fromager.
Exactement, donc on est en pleine continuité, et cette continuité a été revendiquée malgré finalement près de 5 siècles d'écart.
Pourquoi avoir attendu autant pour écrire ce livre, Georges, vous qui êtes un fin gourmet?
Mais à vrai dire, ce livre, l'idée de ce livre m'est venue du livre précédent qui portait sur Gutenberg et sur l'humanisme, et j'ai constaté en effet que dans la littérature qui paraissait au moment de l'imprimerie était présent un certain nombre d'ouvrages qui traitaient du goût, de la déculpabilisation de la gourmandise, et qui proposaient des livres de recettes, parfois à usage hygiéniste ou médical, et parfois à usage épulaire, pour utiliser un adjectif un peu oublié, qui désigne ce qui se rapporte au repas. Et en particulier, dès la fin du XVe siècle, sont édités des livres de recettes qui permettent de connaître la variété extraordinaire des aliments, et surtout les attentes d'un public qui est sans doute assez large. C'est évidemment le public des lettrés, mais c'est aussi le public des notables, des bourgeois, et peut-être par ruissellement ou par extension, un public encore plus large. Je voudrais rappeler aussi que c'est autour de 1470-1475 qu'un auteur qui est connu sous son pseudonyme de Platine écrit un ouvrage qui sera un best-seller, qui s'appelle, je traduis, « De l'honnête volupté », et qui exalte la cuisine, alors cuisine italienne de son temps, mais ce livre a eu un tel succès qu'il a très vite été adapté, cloné, copié, piraté, au point que les contemporains de Sébastien Brandt, Beatus Rhenanus lui-même, se repaissaient, si je puis dire, de cette lecture. Un classique, et je crois que ce qui est important là-dedans, c'est que cette littérature qui exalte l'essence, le goût, mais aussi la bonne conduite à table, elle est contemporaine de tout un environnement nouveau, un environnement technique, un environnement d'objets qui vont devenir familiers. La représentation de la table devient un lieu fixe, ce n'est plus une table démontable. La cuisine, qui devient une sorte de véritable laboratoire, et qui se dote d'un matériel nouveau. Je crois qu'il est important de rappeler que la recherche que j'ai faite, elle est fondée évidemment sur des textes, sur des archives, sur des images toujours plus nombreuses. Les illustrations de la nef des fous de Sébastien Brandt en sont un exemple, mais aussi sur le travail des archéologues qui nous montrent qu'apparaissent des objets toujours plus variés, Je pense en particulier à toute la vaisselle, aux objets en verre, mais aussi aux objets métalliques, à tout ce qui sert à la cuisson. Enfin, dans une perspective d'histoire économique et sociale, il est possible, à partir du cas de l'Alsace, de mettre en évidence des relations économiques parfois extrêmement longues. Je prendrai un exemple. Dans un de ses textes, Sébastien Brandt parle, alors bien entendu, d'un repas de viande, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais accompagné de riz et d'olives. À ma connaissance, l'olive ne poussait pas encore en Alsace au XVIe siècle, mais ça va venir avec le réchauffement climatique. Et le riz, ben le riz venait d'Italie. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons se développer des courants commerciaux qui font que, au bord du Rhin, on mangeait des figues et des oranges, on ne mangeait pas encore de bananes, mais enfin, ça allait venir un peu plus tard, on buvait des vins d'Italie ou d'ailleurs.
Or, l'Alsace est une terre bénie. C'est un pays de cocagne, c'est le jardin et le cœur de l'Europe.
J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle désigne bien cette caractéristique qui est double. C'est à la fois une sorte de pays de Canaan, souvent illustré, une terre promise par sa richesse propre, par son vignoble, par le Kororsberg si riche, si fertile, par les zones maraîchères qui entourent les villes, comme Strasbourg par exemple, et c'est un carrefour commercial tout à fait extraordinaire. Et ce carrefour commercial nous renvoie très loin. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Strasbourgeois, pour prendre le cas de Strasbourg, mais je pourrais le généraliser, qui sont capables de manger des beefsteaks, là aussi c'est un anachronisme de ma part, mais de la viande de bœuf qui vient de Pologne ou de Hongrie, sont capables de manger des harengs qui viennent de la Baltique ou de la mer du Nord, sont capables de manger du fromage qui vient de Parme, qui vient de Suisse ou qui vient des Pays-Bas. Le marchand de fromage qui a construit la maison de Kamerzell, c'est une belle illustration de cet ancêtre du grand commerce d'alimentation. À la limite, c'est le marché-gare de Strasbourg, mais c'est aussi Rungis. Rungis est déjà en germe à cette époque.
Quelle est la place réservée aux légumes dans la cuisine de la Renaissance en Alsace ?
Alors, une des grandes découvertes de ma recherche, c'est de voir l'importance considérable que jouent les légumes. Alors, quels légumes ? C'est d'abord toutes les productions maraîchères qui viennent des abords des villes. Colmar a une Krutenau, comme Strasbourg. Les maraîchers sont des corporations particulièrement actives, nombreuses. À Strasbourg, c'est l'une des premières numériquement. Elle a trois locaux corporatifs et trois secteurs. La Krutenau, mais aussi le secteur de Saint-Aurélie, mais encore le secteur du Faubourg de Pierre.
Qui correspond d'ailleurs aux trois maisons de la corporation des jardiniers.
Exactement, donc les Gärtner à Ackerlut. C'est quelque chose de très important. Alors, que cultivent-ils ? Ils cultivent des poireaux, des raves de tout genre, donc des racines. Autrefois, quand on enseignait aux élèves le fait que nos ancêtres mangeaient des racines, mais ces racines, elles ne sont pas tellement différentes des tubercules que nous avons actuellement, les pommes de terre, par exemple. Je reviendrai sur la pomme de terre d'ici quelques secondes. Des panais, des poireaux, des salades, auxquelles on pourrait ajouter, évidemment, à côté de toute cette variété de légumes, des fruits. Mais je crois qu'il me paraît important de dire que, là aussi, des progrès se produisent. Par exemple, Strasbourg a une spécialité qui est l'oignon. Et Strasbourg exporte en particulier des semences d'oignons à travers toute la vallée du Rhin. On ajoutera aussi tous les pois, les fèves, etc. L'abondance est au rendez-vous. Et je pense qu'il est utile de dire que chaque repas est accompagné de légumes. Alors, légumes d'été, légumes d'hiver. Et je pense évidemment à la choucroute. La choucroute, ou les différentes façons de conserver ces légumes, ce qu'on appelle le kompish ou le compost, hein, ce sont des conserves de légumes qui se font en général par salaison ou par fermentation, comme la choucroute, et qui permettent de passer la mauvaise saison. Donc je crois que c'est quelque chose de très très important. On mange beaucoup plus de légumes que ce que l'on peut imaginer. On ne se nourrit pas exclusivement de pain et de viande. Je reviendrai sur la viande dans quelques secondes. Mais on essaye de trouver la plus grande variété. Et dans cette grande variété apparaissent des produits nouveaux. Alors un produit, par exemple, qui fait son apparition au début du XVIIe siècle, c'est la carotte rouge, ou orange, celle que nous connaissons toujours, qui complète le panais, qui est un légume par an. Et enfin, la pomme de terre. La pomme de terre, et on oublie de le dire, le premier repas de pomme de terre qui soit connu dans les archives a lieu à Châtenois, à la hauteur de Célestat, en janvier 1625. C'est une curiosité, mais ces pommes de terre qu'on appelle déjà Erdäpfel sont incontestablement les tubercules, les solanacées qui viennent d'Amérique latine et qui sont apparues dans les années 1560-70 dans les premiers jardins botaniques. La botanique, dont Strasbourg est la capitale mondiale au XVIe siècle, la botanique est en grande partie la grande pourvoyeuse de nouveautés. Je crois que c'est vraiment important.
Georges Bischoff, la pomme de terre est donc connue en Alsace, connue et dégustée en Alsace, plus d'un siècle avant le royaume de France.
Incontestablement. Alors, dans quelle proportion, c'est difficile à dire. C'est une curiosité. Mais en tout cas, elle est présente. Et on a d'autres documents qui nous apprennent son arrivée assez précoce. À la cour de France, effectivement, c'est sous Louis XVI qu'on commence à en manger. Il va de soi que le petit peuple en a mangé bien plus tôt. À la fin du XVIIe siècle, la pomme de terre qui a passé souvent pour être la nourriture des cochons va s'étendre aux hommes, et elle est en grande partie responsable de l'extraordinaire victoire sur la faim, sur la famine, qui a lieu dans nos régions à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, avec les conséquences démographiques qu'on peut imaginer.
Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent. C'est Brigitte Bardot qui va nous accompagner en chanson. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, La Madrague.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité est Georges Bischoff pour le livre qu'il publie aux éditions La Nuée Bleue, Dans le ventre de l'Alsace, l'âge d'or de la gastronomie alsacienne. Cet âge d'or correspond à la Renaissance, c'est une période de grande mutation et de grande ouverture de la société aux réalités nouvelles. Nous avons vu combien les légumes étaient importants dans cette cuisine de la Renaissance en Alsace. Parlons maintenant de la viande, Georges.
Alors là aussi, je pense que le public va être surpris. La viande a une importance qu'on imagine assez peu à des époques aussi anciennes. On a des chiffres. Ces chiffres sont assez extraordinaires. Nous apprenons qu'un homme adulte a droit quotidiennement à l'équivalent d'une livre de bœuf. Une livre, c'est-à-dire en gros 450 grammes. Ça paraît tout à fait extraordinaire à une époque où le hamburger standard fait 60 ou 80 grammes. Mais ça s'explique par le fait que les protéines sont évidemment indispensables à l'homme. Elles sont fournies par ces aliments-là en particulier, par l'alimentation carnée, mais pas seulement. Et parce que l'organisation de l'approvisionnement permet effectivement d'y pourvoir. Dans une ville comme Strasbourg, pour citer cet exemple, on abat, je crois, une trentaine de bœufs par semaine, sachant qu'un bœuf peut fournir facilement dans les 150 à 200 kilos de viande. Alors le calcul peut être fait. La grande boucherie qui se trouve au débouché du pont du Corbeau, qui est l'actuel musée historique, qui a été reconstruite à la fin du XVIe siècle, cette grande boucherie se trouve, et vous le savez, au débouché de la rue des Bouchers, qui mène en direction, par la rue d'Austerlitz, en direction de la Méno, c'est-à-dire des faubourgs est de Strasbourg, vers la plaine des Bouchers. Plaine des Bouchers qui était une sorte d'immense foiraille où se pressaient des centaines de bovins qui venaient de très loin, puisque les bouchers strasbourgeois, entre autres, étaient réputés pour être des importateurs de viande qui venaient évidemment par ses propres moyens en remontant le Danube. On sait que les circuits d'approvisionnement, alors le circuit d'approvisionnement vers le Danube moyen, vers la Hongrie ou plus au nord vers la Pologne ou vers la Silésie, ce circuit d'approvisionnement avait un certain nombre d'étapes et en particulier la ville d'Ulm sur le Danube. Et là, il faut imaginer des troupeaux, un peu des troupeaux de centaines de bêtes à cornes qui remontaient d'est en ouest, qui passaient la forêt noire, qui arrivaient à Strasbourg par le pont du Rhin et qui venaient se refaire une sortie sur la plaine des Bouchers, sur des herbages qui lui permettaient ensuite d'attendre pour être conduit aux grandes boucheries de Strasbourg ou attendre pour être dispatchés bien plus loin, puisque ces mêmes fournisseurs allaient approvisionner la Lorraine ou le reste de l'Alsace. Il existait aussi d'autres circuits d'importation qui venaient plutôt du sud de la Suisse, du pays de Montbéliard. Voilà pour les bovins, et on peut penser que cette alimentation à base de viande de bœuf était prédominante. Prédominante, le porc étant, semble-t-il, moins important qu'il n'était au Moyen-Âge, bien qu'il ait été aussi l'objet d'un très grand commerce depuis la forêt de Haguenau, depuis des régions du sud des Vosges. Et on pourrait ajouter à ce panel, alors apparemment assez peu de viande de mouton, mais ça se trouvait, la volaille. Et la volaille a une importance, là aussi, tout à fait considérable. La volaille, donc les poulets, les chapons, les oies, les canards.
Alors, l'oie à Strasbourg occupe une place essentielle. Il y a même au XVIIe siècle une réglementation quant à la circulation de l'oie dans les rues de Strasbourg.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un voyageur du début du XVIe siècle qui décrit des troupeaux de 500 oies dans la vallée du Rhin. Alors, cette oie offre un certain nombre d'avantages. C'est qu'elle est assez facile à élever. Elle s'accommode de restes végétaux en particulier. Elle est compatible avec une assez forte densité de population. Elle est un peu amphibie. Et plus tard, au XVIIIe siècle, elle va encore s'épanouir par la culture très précoce du maïs, là aussi, qui est une arrivée récente, hein, qui vient d'Amérique latine, et qui va être à l'origine, finalement, de l'engraissage des oies, qui va aboutir au foie gras à la fin du XVIIIe siècle. S'ajoute une question qui me paraît extrêmement importante, j'en parle tout de suite, c'est celle des problèmes, des interdits alimentaires, ou en tout cas des prescriptions religieuses. Alors, avec deux aspects, d'une part, l'Église catholique et les protestants, dans la foulée, vont respecter le carême et le jeûne et l'abstinence, en particulier le vendredi, ce qui fait que vous avez une bonne centaine de jours où on ne mange pas de viande. On mangera donc autre chose, c'est-à-dire du poisson. L'abstinence, dans la religion catholique, s'étend également aux œufs et aux produits laitiers. Donc théoriquement, pendant le carême, pas de fromage et pas de beurre. Mais des dérogations existent, et à la fin du XVe siècle, pour pouvoir se procurer de l'argent, l'évêque de Strasbourg vend le droit de manger du beurre, de faire la cuisine au beurre pendant le carême. Il vend ça sous la forme d'espèces de tickets qu'on appelle des butterbriefes, et avec l'argent recueilli par cette presque indulgence, hein, il va pouvoir s'acheter des canons. Ces canons, on va les appeler, les canons du beurre.
Comme enfin, il y aura des tours du beurre dans certaines cathédrales à travers la France, à la même époque.
Exactement. Alors, dans la recherche que j'ai faite, il y a quand même quelques inconnus, et en particulier, on ne connaît pas très bien le fonctionnement des approvisionnements alimentaires, et particulièrement carnés dans les communautés juives. On peut penser effectivement que l'abattage rituel se pratique à une échelle très locale, mais que les communautés juives étant très petites, on peut penser que la viande d'oie fait partie d'un ordinaire un peu plus courant, et que la viande de bœuf donne lieu éventuellement à des salaisons ou à des fumaisons qui permettent de la conserver plus longtemps. Là encore, d'après les informations que j'ai pu recueillir, on a peu d'éléments qui nous permettent de connaître ces approvisionnements et ces habitudes alimentaires. Ben, il va de soi que l'alimentation cachère existe en Alsace à la fin du Moyen-Âge, à l'époque de la Renaissance.
Georges Bischoff, quelle place est réservée aux fruits dans la cuisine alsacienne de la Renaissance?
Alors là encore, une découverte intéressante, bien entendu les fruits de saison, avec une fructiculture qui existe, qui est importante, et certains fruits ont une assez grande familiarité. Je pense évidemment aux cerises. Hein, les vergers de Westhoffen sont connus dès la fin du XVe siècle et fournissent évidemment au mois de juin ou au mois de juillet les tables strasbourgeoises ou les tables des autres villes. Les cerises ne se conservent que très mal, hélas. En revanche, les couetches, qui sont également présentes, permettent par dessiccation de passer l'hiver, de la même manière que les pommes et les poires, qui sont l'objet d'une culture extrêmement importante. Mais on pourrait ajouter à ces fruits des fruits plus rares. Alors, il va de soi que les fraises sont les fraises des bois. La fraise du Chili que nous connaissons actuellement n'existe pas encore. Les framboises apparaissent, les myrtilles aussi, mais c'est quelque chose de purement saisonnier. Les figues sont présentes. Alors, les figues sont peut-être cultivées dans notre région, c'est possible, comme d'autres fruits. Un fruit, par exemple, qui est bien oublié, qui est la cornouille, le fruit du cornouiller, et qui paraît avoir une importance assez grande, parce que ces arbustes poussent très abondamment. Ils ont été en grande partie éradiqués, mais à cette époque, au XIVe, XVe siècle, on les trouvait assez souvent, en rappelant que il n'est pas rare que le fruit soit associé à la viande. Des recettes existent toujours, bien entendu, qui vont dans ce sens, du style des groseilles avec du sanglier. Et enfin, des fruits qui sont importés de pays lointains. J'ai déjà cité les oranges et les citrons. Alors les citrons, on sait qu'ils sont présents, ou les cédrats, sont présents effectivement dans les communautés juives de la région, pour les raisons que vous imaginez. Donc une grande circulation, une grande variété. S'ajoutent les fruits secs, les noix, les noisettes et les amandes. Et curieusement, les amandes qui passent actuellement pour être un fruit exotique sont abondamment cultivées dans la région. C'est une des grandes spécialités du Palatinat. L'amande, c'est une sorte de produit universel qui permet de donner du goût à pratiquement tous les aliments, ce qui fait que de nombreuses recettes se font à base d'amandes et de viande, d'amandes et de poissons, et ça permet une très très grande variété d'amandes sous forme de pâte, sous forme de farine, etc. Ça se conserve très bien et ça circule très abondamment.
Le sucre et le sel sont également des éléments indispensables à la cuisine de la Renaissance.
Alors le sel que l'on consomme dans notre région, c'est du sel lorrain. Et on connaît un courant extrêmement important d'échange qui va des salines de Dieuze, de Marsal, qui sont souvent trustées par des investisseurs strasbourgeois. Ce courant d'échange qui emprunte les cols des Vosges, Saverne évidemment, le col de Sales bien nommé lui aussi, le col du Bonhomme, que sais-je encore, ces courants vont dans l'autre sens, être complétés par le courant d'exportation du vin d'Alsace en direction de Lorraine ou en direction des pays un peu plus au sud, notamment de la Franche-Comté ou de la Suisse. C'est quelque chose d'important parce que le sel permet de conserver les aliments. Je pense en particulier à la viande salée, mais je pense aussi à la choucroute, aux choux, aux raves, etc. Donc le sel est un ingrédient absolument essentiel. Il existait plusieurs greniers à sel à Strasbourg, mais alors toutes les villes en possédaient, parfois sous forme de monopole seigneurial, parfois non. Le sucre est quelque chose d'infiniment plus rare, avec deux sources d'approvisionnement. La plus rare et la plus chère, qui vient des pays de la Méditerranée, qui vient de Crète, qui vient de Sicile, qui vient éventuellement d'Espagne, qui est le sucre candi, le sucre de canne, qui est rare, qui est considéré comme un produit semi-médical. Et l'autre sucre, c'est le sucre indigène, en l'occurrence le miel. Le miel, là aussi, qui mériterait une étude très approfondie, mais qui se trouve en abondance dans les Vosges et dans la forêt noire, au point que certaines localités ont une réputation de fabrication à la fois de pain d'épices, à base évidemment de farine et de miel. C'est le cas par exemple d'Offenburg, où on fabrique des pains d'épices qui font plusieurs kilos, Et enfin, une fabrication de cire qui est en quelque sorte le sous-produit de l'élevage de l'apiculture.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission Passé-Présent et nous reprenons cette passionnante conversation avec Georges Bischoff. C'est toujours Brigitte Bardot. Nous écoutons Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Comment il vécu ? Comment il est mort ? Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore ? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom,
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police, ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque.
Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Vous
écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité Georges Bischoff pour le livre qu'il publie aux éditions La Nuée Bleue, Dans le ventre de l'Alsace, l'âge d'or de la gastronomie alsacienne. Et cet âge d'or, c'est bien sûr la Renaissance. Nous avons vu l'importance de la viande, Georges, mais les repas de qualité sont à base de poisson.
Le poisson, effectivement, a une réputation, j'allais dire, presque aristocratique, au moins pour certains de ces produits des cours d'eau ou de la mer. Alors, dans notre région, effectivement, il existe trois sources d'approvisionnement pour le poisson. La pêche, n'oublions pas que Strasbourg est une ville fluviale et que l'Alsace est baignée par de très nombreux cours d'eau, mais cette pêche qui fait que la Corporation des pêcheurs de Strasbourg a une très grande importance, cette pêche est quand même confrontée à des rivalités, des concurrences, mais aussi parfois à une diminution de la recette du fait de la surpêche. Et par conséquent, cette pêche de poissons d'eau douce est complétée par une pisciculture qui est très importante de carpes et de brochets. Le brochet est un poisson très renommé. Pisciculture qui se pratique certes dans notre région, mais aussi dans des régions spécialisées. Je pense à la région des étangs de Moselle actuelle. Je pense au Sungo qui se lance dans l'élevage de carpes au XVe siècle, au moment du Concile de Bâle, pour pouvoir fournir les mangeurs qui y sont présents. C'est enfin une troisième source d'approvisionnement qui est beaucoup plus lointaine, qui consiste à importer des poissons de mer, alors en général des poissons qui sont déjà traités, c'est-à-dire conservés dans la saumure, c'est le cas des harengs sorts, ou séchés, c'est le cas des morues. Et je pense pouvoir dire, mais c'est très difficile à démontrer avec plus de précision, que les trois sources d'approvisionnement s'équilibrent. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un tiers de poissons de mer qui vient de la Baltique ou de la mer du Nord, avec des circuits extrêmement bien organisés, le poisson frais venant de la région, mais arrivant par exemple des piscicultures distantes de 150 km, dans certains cas, dans des bacs qui sont montés sur des chariots. Le résultat, c'est que cette offre est très diversifiée, et qu'on signale près d'une, je ne voulais pas vous dire de bêtises, mais plusieurs dizaines de variétés de poissons différents. Poissons, pas seulement, également d'autres produits d'origine fluviale. C'est en particulier le cas des écrevisses. L'écrevisse est considérée comme l'un des mets les plus raffinés. Et on constate que dans certains marchés, je pense au marché de Strasbourg, on les trouve en général par grappe d'une centaine d'écrevisses. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ajouterais que parmi les produits qui viennent de, qui sont associés aux poissons, on trouverait même quelques viandes. En l'occurrence, dans certains cas, mais c'est une rareté, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, l'Église autorise la consommation de castor, le castor étant un animal d'eau douce, le castor étant donc assimilé à un poisson et non pas à un animal terrestre habituel. On sait par exemple que les religieux de la commanderie de Saint-Jean de Strasbourg, l'actuelle ENA, au moment du carême, consommaient des queues de castor. Les queues de castor sont grillées sur dans une poêle ou sur un grill et ont, paraît-il, le même goût et le même aspect que le lard.
Le jésuitisme a déjà pénétré l'art culinaire.
Bien avant les jésuites. Bon, après tout, l'art de négocier, de moyenner, je crois que cette ruse est même plutôt sympathique.
À la Renaissance, la cuisine devient un espace fonctionnel.
Mais là aussi, c'est un aspect que les archéologues nous ont en grande partie révélé, c'est que la cuisine est d'une part une pièce à part dans la maison. Elle va là aussi assez rapidement être doublée par la salle à manger, qui est un espace fixe qui occupe la stube de la maison, parfois chauffée depuis la cuisine. Mais la cuisine devient un endroit, comment dirais-je, presque sacré, une sorte de laboratoire de la maison. Toutes les maisons en ont, pas seulement les maisons d'habitation, mais également les lieux collectifs. Je pense aux hôtels de ville, je pense aux auberges, aux poêles corporatifs, aux hôpitaux, que sais-je encore. Et il s'agit de cuisines remarquablement bien équipées. D'abord, la cuisson se fait au bois ou au charbon de bois. Elle se fait sur un âtre, sur un foyer qui est en général une sorte de d'estrade de pierre ou de briques réfractaires, sur laquelle on allume un feu, un peu comme un feu de camp, si je puis dire, mais un feu de camp bien maîtrisé. En effet, cette cuisine utilise d'une part parfois des soufflets pour pouvoir alimenter plus efficacement le feu en oxygène, mais utilise aussi des trépieds sur lesquels on pose les marmites, utilise des crémaillères auxquelles on suspend des marmites munies d'anses. Cette cuisine dispose aussi d'une, de matériel en terre cuite. Et enfin, on voit y apparaître un certain nombre de grandes nouveautés, et en particulier, comme la cuisson est une cuisson qui se fait soit à feu vif, soit en bouillie, soit avec donc la cuisine qui se fait au pot, en quelque sorte, hein, au pot suspendu à la crémaillère, en général, c'est un bouillon. Hein. Enfin, la rôtissoire devient un instrument qui accompagne pratiquement toutes les cuisines. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un tournebroche, un tournebroche qui peut être manipulé à la main, mais aussi le tournebroche automatique qui se développe à partir du début du XVIe siècle et dont on a un certain nombre d'illustrations. On voit en effet sur certaines gravures des tournebroches qui sont mues par une hélice. L'hélice se trouve sur un axe vertical qui, par un système de pignons, transmet son mouvement au tournebroche, et l'hélice elle-même est entraînée par la chaleur qui vient de l'âtre. Donc l'air chaud fait tourner une hélice qui fait tourner le tournebroche et qui permet d'embrocher des volailles. C'est une des raisons pour lesquelles la volaille bien cuite apparaît très 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 fréquemment sur les images qui nous montrent des scènes de repas.
La Renaissance est aussi l'époque où se développent les auberges et les débits de boissons.
Là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, bien entendu, les gens mangent en partie chez eux, aux heures qui sont quasiment les nôtres à l'heure actuelle, mais la cuisine de haute qualité, c'est plutôt la cuisine qui se fait dans les auberges. Hein, le père de Sébastien Brandt était aubergiste. C'est un exemple parmi de nombreux autres. À Strasbourg même, il existait des dizaines et des dizaines d'auberges, souvent très bien achalandées, avec des cuisiniers spécialisés, assistés de marmitons, assistés de servantes. La cuisine collective, c'est un métier d'homme. La cuisine familiale, c'est un métier de femme. Je crois que ça mérite d'être souligné d'emblée. Il est possible donc de connaître des menus, de connaître, de voir se développer à côté de ce qu'on pourrait appeler l'alimentation de tous les jours, une véritable gastronomie. Cette gastronomie fonctionne à la fois par la variété des produits qui sont proposés. Le gibier apparaît très peu, parce qu'il a en grande partie disparu de l'espace naturel. On pourra éventuellement revenir sur cette question intéressante. En revanche, on essaie surtout d'accommoder, on accommode toute la viande. Alors bien entendu, les bons morceaux, les abats étant souvent convertis en saucisses, en charcuterie, ou bien servi tel quel, accommodé avec des épices, avec des céréales, avec des légumes, dans une variété extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle on peut vraiment parler d'une véritable gastronomie. Les livres de recettes qui sont souvent diffusés sous l'étiquette Küchenmeisterei, c'est-à-dire en gros l'art de la cuisine. Ces livres de recettes contiennent des centaines de recettes différentes. Recettes pour lesquelles on essaie en particulier de mettre l'accent sur les morceaux les plus originaux. Alors ça peut être des tripes, ça peut être des abats, ça peut être de la langue, ça peut être de la cervelle, que sais-je encore. Hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on essaie d'enrichir avec les épices les plus nombreuses. Et là aussi, on constate que le budget épices est considérable, que ces épices qui sont vendues en pharmacie sont, enfin, chez les apothicaires plus exactement, ou chez les épiciers, sont particulièrement variées. Alors, on pense évidemment au poivre, mais on pourrait y ajouter des noix muscades, on pourrait y ajouter les clous de girofle, on pourrait y ajouter des plantes aromatiques très nombreuses, locales ou au contraire lointaines. Le thym, par exemple, connaît un succès extraordinaire avant la Renaissance. Donc, il se substitue parfois aux épices plus lointaines. On ajoute le fait que les épices sont considérées comme des régulateurs des humeurs, comme étant adaptées à des régimes particuliers, parce que là aussi, en dehors du plaisir gustatif que représente un bon repas, la valeur hygiéniste de celui-ci, les vertus qu'on prête aux différents aliments de réguler les humeurs du corps, c'est-à-dire de permettre de vivre dans une meilleure santé, hein, c'est constamment à l'ordre du jour.
Et c'est d'ailleurs la dernière partie de votre ouvrage, cette relation entre cuisine et santé.
Et je crois que c'est au cœur même des préoccupations à la fois des hommes de la Renaissance, mais aussi de leurs prédécesseurs du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité. En effet, à l'époque de l'Antiquité, à l'époque d'Hippocrate et de Galien, qui sont les fondateurs de la médecine, on a élaboré la théorie des humeurs qui consiste à considérer que quatre complexions coexistent dans l'homme, se traduisent par quatre fluides, le sang, la lymphe, la bile, etc. Les deux biles, pardon. Et que les caractères des hommes tiennent précisément à la prédominance d'une de ces quatre humeurs dans leur cœur. On estime par exemple que pour pouvoir rééquilibrer quelqu'un dont le caractère est sanguin, se manifeste par un excès de sang, doit manger des viandes blanches. Bon, à l'heure actuelle, c'est toujours recommandé. Hein, doit essayer de tempérer en quelque sorte son caractère naturel. Et dans cet hygiénisme, le rôle des aliments est tout à fait essentiel. Le rôle des aliments, mais aussi le rôle des boissons. Le vin blanc, vin rouge, l'eau étant peu recommandée, puisque l'eau est une denrée extrêmement rare. Hein, l'eau est très souvent polluée. En revanche, on va essayer de développer d'autres types de boissons, des eaux de vie, et dans notre région, la bière qui se produit à partir d'orge et de houblon.
Georges Bischoff, merci pour cette présentation très érudite de ce sujet passionnant qu'est la cuisine en Alsace à l'époque de la Renaissance. Je rappelle le titre du livre que vous publiez aux éditions La Nuée Bleue, « Dans le ventre de l'Alsace ». l'âge d'or de la gastronomie alsacienne. Il ne vous reste plus qu'à passer aux travaux pratiques. Je dis ça pour nos auditeurs. Il y a quelques recettes qui apparaissent au fil des pages de ce livre et qui pourraient être source d'inspiration si vous voulez conjuguer histoire et cuisine. Nous allons nous séparer en chanson avec toujours Brigitte Bardot. Nous allons nous quitter sur une Harley Davidson après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission, et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.
Ben écoutez, je vous remercie et bon appétit.
À vous aussi. Da 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 da